Hey ho, let's go, c'est Plume et Pinceau, l'émission de bande dessinée de Canal B, une émission cette fois-ci en trio, parce que nous sommes trois.
Et bonjour.
Et ben voilà, alors qui c'est le petitot?
Alors si je ne dis pas de bêtises, ça doit être Monsieur Carpetto, bonjour.
Ouais, c'est un peu Carpetoche aujourd'hui.
Ouais, mais d'habitude, quand vous êtes pas là, il vous surnomme, et là, Monsieur Carpetto, prout prout.
Il fait pas le mariole, il voit mon excellent exemplaire de Sven Hassel, que je vous remercie de m'avoir donné. Monte Cassino, je l'avais pas lu celui-là.
C'est vrai? Oh, c'est un classique.
J'en ai lu des tas d'autres, mais celui-là, je ne l'avais jamais lu. Mais ça a fait plaisir à un ami qui voulait découvrir comment Sven Hassel, justement.
Ouais, bah tout ça part de Monsieur Soulcier. On pourrait remercier encore une fois Monsieur Soulcier de nous avoir rappelé l'existence de cet auteur danois. Qui avait choisi l'Allemagne pendant la Seconde Guerre mondiale et qui a fait des espèces de romans effectivement assez rigolos, finalement, assez truculents, rabelaisiens.
Rabelaisiens. En fait, c'est rigolo parce que ce qui est rigolo, c'est que je lisais ça, Erwan le lisait, mais on l'a découvert fortuitement, même avant de rencontrer Soucier.
Ouais, c'était de l'adolescence, tu sais, quand t'es un peu passionné par les uniformes.
Voilà, donc il n'y a pas de quoi être fier, on est des garçons, vous voyez bien comment c'est.
Guerre.
Et quand Monsieur Soulcy raconte ça dans son excellent album, toujours en vente chez vous d'ailleurs, j'espère, dans la peau d'un dessinateur de presse.
Oh, oui, bien sûr. Ouais, tout à fait. Non, mais en plus,
ils en ont qu'un numéro, ils le sortent quand ils le voient arriver avec la grande B.
Est toujours en vitrine, comme on a demandé.
Quand vous passez devant, oui, on a cours pour le remettre.
C'est ça qui est bien avec leur grande vitrine maintenant. Ils voient, il arrive.
Ouais, alors ils mettent ratiche-poche en vitrine et monsieur, comment dirais-je, Soulcier.
Et puis il n'y a jamais eu de tapis rouge en fait, Roger, il n'y a que pour vous.
Ah, Attendez, il paraît que j'ai un bon d'achat, une fortune, mais ben, non, mais Roger, il n'y a rien qui est sorti, il n'y a rien qui t'intéresse.
Après, ils font dans le conseil. Ils sont peut-être sérieux quand ils vous disent ça.
Tout à fait.
Alors, c'est une maison sérieuse.
Mais donc, on taira le nom, parce qu'il y a de question qu'on puisse nous accuser de faire du favoritisme pour une maison, une librairie.
Et tout ça en partant de Sven Hassel. Je ne sais pas comment on en est arrivé là, mais c'est ça aussi, Plume et Pinceau. C'est des considérations et des élucubrations. Bon, un interlude musical serait-il le bienvenu?
Yes, moi je pense. On va commencer par ça, pour se mettre
d'accord. Dans la répartition des rôles, moi c'est Monsieur Plume.
Yeah.
Incontestablement, l'ombre de Phil Spector est sur ce morceau. J'adore.
Des petites clochettes de Noël après les fêtes.
Trio féminin, girls band, excellentissime, avec des franges, évidemment.
Ah, moi, je cautionne pas ce genre de morceau qui vous vaudra sûrement
mais non
la sévérité d'un jury complaisant, mais bon, tant pis. Alors,
il dansait.
Je dansais tout seul dans ma tête.
Il dansait.
Comme on a M. Carpetto et qu'on est quand même en début d'année, je demanderais bien aux professionnels, finalement, quel regard il a sur cette année 2025 et sa production de BD.
Eh bien, c'était une très très bonne année en termes de production de BD. On a été ravis, on a été gâtés vraiment. Les auteurs ont sorti plein de choses. Alors le potentiel défaut de cette année 2025, c'est que les éditeurs ont gardé beaucoup pour la fin d'année. Donc tout est sorti entre septembre et décembre, ce qui fait en fait même entre septembre et novembre, ce qui fait 3 mois de sortie très dense, mais de très très bonnes sorties.
Vous dites ça parce que ça vous a fait bosser. Vous bossez maintenant avec les retours et tout aussi encore.
Ben ouais. Et puis c'est surtout qu'on doit lire énormément à cette période-là, et ce qui fait que parfois on sature de lecture et on sait qu'il y a d'excellentes BD où nous on a un regard beaucoup plus critique parce qu'on vient de lire 10 autres très bonnes BD.
Cette année, c'est vrai que pour faire les tops, moi je trouvais qu'il y avait vraiment du choix.
Ah oui, il y a de quoi faire. Ouais,
pour faire le top 5,
J'ai pas été trop emmerdé, ratiche poche.
Roger, vous avez un vieux. Je sais que vous avez un vieux dossier avec plein de poussière. Vous les ressortez, vous cherchez les noms et vous remettez les mêmes.
Voilà. Alors moi, j'ai pas tout à fait le même regard moi sur l'année 2025 parce que j'ai chopé un article dans Actualité, je crois, où il parle justement du bilan BD 2025, qui est beaucoup plus nuancé.
Plan ?
Eh ben, au niveau financier, avec petites...
Mais nous, on était juste sur le plaisir.
Je ne parlais pas du niveau financier, vraiment de...
Énormément de petites maisons, ou de maisons connues, mais alternatives, qui ont pas mal souffert.
C'est la loi de la jungle, Roger, c'est une industrie.
Vous êtes au courant, vous avez sans doute suivi aussi, comment ce qui était couru de chez couru, c'est la fin des humanoïdes associés. Ouais. Et là... Ouais, la fin des humanoïdes associés.
J'irai pas jusqu'à là, parce qu'on a encore des BD prévus des humanoïdes, et les humanoïdes n'ont pas complètement disparu, faut pas signer leur mort avant qu'ils soient
complètement morts. Parce que, comme j'ai lu des articles, justement, les éditions petit à petit qui râlent, parce qu'ils ont été achetés, eux, par, les humanoïdes. Et ils vont faire les frais, vraisemblablement, de... Comment pourrait-on dire ? Comment ils appellent ça dans les industriels ?
Restructuration.
Voilà. Une restructuration. Et je me demandais, justement, c'est aux professionnels aussi que je pose la question là. Est-ce que le métal hurlant va continuer de paraître ? Est-ce que métal hurlant, c'est fini ?
Nous, là, pour l'instant, on continue à travailler avec les commerciaux des nouveautés des humanoïdes associés. Et il y a un programme... A priori, ce qu'on nous dit, un programme pour l'année. Donc les humanos n'ont pas complètement disparu, ils sont toujours là. Je sais qu'on a beaucoup annoncé vraiment que c'était terminé. J'irai pas jusqu'à là pour l'instant, je me suis pas assez renseigné, donc je veux pas dire de bêtises, mais pour moi, ils sont toujours debout.
Toujours debout. Il faut que vous compreniez un truc. Vous êtes le premier de la maison dont on terra le nom qui revient pour 2026. C'est à vous qu'on balance toutes les questions.
Bah oui, et puis
c'est pour ça que les deux autres. C'est à Carpetto d'y aller. Non, vraiment.
J'en ai d'autres. Alors, la maison dont Terra de Nom va s'associer. Alors, je vous ai déjà parlé, moi.
Il va vous demander de signer un truc.
Ouais. Vous êtes au courant de l'organisation parallèle du festival d'Angoulême, festival interconnecté qui doit se tenir dans pas mal de villes en France. Et on se posait la question, justement, avec Monsieur Plume, est-ce qu'il y aura la même chose à Rennes? On voyait pas Rennes annoncer. Eh ben, Rennes, oui. Rennes y sera. Ça sera les rencontres BD à Grabuge, les Courouzes. Grabuge, c'est un local.
C'est un local restaurant associatif, bar. Ouais.
À la Courouze,
ouais, qui est plutôt sympa.
Belle affiche de Monsieur Laurent Lefebvre qui annonce Good Vibes, prestations live, dédicaces, éditeurs locaux, auteurs, autrices du cru, fanzine.
Mais ça, il le savait en fait, parce qu'il regarde le blog de Plume et Pinceau.
Et est-ce que ça va. Donc ça se tiendra le samedi 31 janvier de 16h.
16-21h.
16-21h, c'est ça. Donc 5h, faudra pas rater parce que ça va être assez dense quand même.
Ouais, il va y avoir du monde et puis il y a du beau monde annoncé. L'affiche est très belle de Laurent Lefebvre.
Vous avez des noms ?
J'en ai pas, moi.
Du coup, je vais rien dire. Parce que si vous en avez pas, c'est que.
Ah non, c'est que soit j'ai mal fait mon boulot, soit que vous avez des meilleures sources que moi. Alors allez.
Il y aura Laurent Lefebvre.
Ah,
à tous les coups.
Ça, il me l'a dit. Je l'ai eu au téléphone.
À tous les coups.
Et justement, grâce à l'intervention de Monsieur Laurent Lefebvre, vraisemblablement vendredi prochain, nous devrions parler de ces rencontres BD à Grabuge, à la Courrouze, puisque nous devrions recevoir Madame Mandragore. Qui a eu un prix, d'ailleurs le prix Artemisia catégorie Beaux-Arts 2025, pour un, enfin 2026 en fait, parce qu'il est remis en janvier pour une BD parue en, l'année précédente, en l'occurrence 2025. Et on va peut-être aussi avoir les gens des éditions Presque Lune. Oh, on en avait parlé il y a très très longtemps pour la sortie d'un premier, moi j'avais acheté ça, sortie d'un tout premier album, c'était Super Économiste, ça s'appelait, une
espèce de parodie,
vous vous rappelez, c'était très critique, donc Presque Lune, maison d'édition avec des contenus comment éditoriaux, comment on va dire
engagés,
voilà, c'est très bien. Donc on devrait avoir ces gens-là la semaine prochaine, voili voilà.
Vous êtes fort. Vous avez amené le truc.
Ouais.
Impeccable.
Bah ouais, et puis comment dirais-je, ça fait quand même longtemps qu'on en parle. Est-ce que vous avez des news, vous, mon bon? Oui, parce que vous
avez
parlé de Monsieur Salch.
Oui, je pense pas que c'est une news pour les gens. Je pense qu'ils ont vu passer des commentaires, des infos et des critiques autour de ce dessin. Enfin, encore une fois, Charlie Hebdo, elle a fait polémique, quoi. Là, pour un dessin, effectivement, les bronzés font du ski. Qui ironisait aux yeux de certains un peu trop cruellement sur l'incendie de Crans-Montana. Apparemment, il y a des Suisses qui ont porté plainte, même. Apparemment, il y a vraiment des gens qui ont porté plainte devant les tribunaux suisses. Je ne sais pas ce que ça va donner. Je ne sais pas s'ils l'ont fait en France. Mais bref, ce dessin passe mal. Et il y a toute une polémique. Et vraiment, maintenant, Charlie Hebdo, t'as l'impression qu'ils font un pas à droite, ils font un pas à gauche. Enfin, dès qu'ils bougent, pim-pom-poum, il y a des gens pour les sniper, quoi.
Ben ouais, c'est assez... Mais bon, rassurons-nous, tout le monde est Charlie, donc...
Ben justement, non, les gens jouent beaucoup avec ça. Enfin, dans les deux camps, d'ailleurs. Je suis Charlie, je ne suis pas Charlie. C'est des phrases maintenant vachement lourdes à dire, quoi.
Alors, il y a quelques années, vous étiez pas nés tous les deux, mais il y avait eu un accident affreux avec un quart de gamin. Et dans Harakiri, ils avaient fait une photo. Je ne sais plus, c'était un dessin.
Une espèce de photomontage, tout, un peu pourrave, comme ils aimaient bien
c'était
faire.
C'était dans le même état d'esprit qu'au niveau de l'humour, je veux dire. Et ça a fait scandale déjà à l'époque. Donc, c'est pas. Il y a juste.
Mais
que...
là, en fait, le dessin, il illustrait quand même un article qui expliquait que les pistes de la fameuse station n'avaient quand même pas fermé, business as usual, le lendemain du drame. Enfin, en signe de un petit peu de.
Respect,
je sais pas, de pudeur.
Et
je veux dire, le dessin prend sens, quoi. C'est pas un truc purement gratuit. Mais maintenant, de toute façon, Charlie Hebdo, un dessin, une couverture, boum. Snipé.
Il y en a un pour qui c'est terminé, c'est Scott Adams. Ça va sûrement vous dire quelque chose si
Scott
vous avez
Adams.
Traîné un peu chez les Toubib. C'est des vieux strips qui avaient été rachetés par pas mal de revues. ça se passe dans... Ah, si je vous montre la gueule, si je vous montre le dé... Dilbert, ça s'appelle.
Ah, c'est vieux ça, Dilbert. C'est de la vie d'entreprise, ça.
Voilà, tout à fait. Un succès considérable.
Il y a une cravate verte.
Pas seulement aux États-Unis, ça a été publié dans 2000 journaux à travers le monde. Et bon, c'est une BD que je ne suivais pas particulièrement, mais en tout cas, c'est difficile d'y échapper parce que ça apparaissait à peu près partout. Et puis, sur la fin de sa vie, Dilbert, qui s'exprimait un peu, qui aurait pu donner l'idée d'être un homme quand même passablement à gauche, en fait, non. Il a pété un câble, et avec une rupture définitive qui est venue en 2023, lorsqu'Adams a qualifié les Afro-Américains de groupe haineux, lors d'un épisode de son podcast appelant les Blancs à s'en éloigner. Genre de plaisanterie. En fait, plus ça allait...
Tu veux dire qu'il est américain?
Bah, plus ça allait,
Mais il est juste américain, hein.
Ouais, et c'est Actua BD qui souligne qu'effectivement...
J'ai pas un grand souvenir de cette série.
Non, mais parce que c'est vraiment de la revue.
Dans le strip, il y a des trucs que je trouve plus rigolos.
Ouais.
Un bon vieux à Gare du Nord, moi ça le fait.
Ouais, moins polémique en tout cas. Mais en tout cas, c'est une époque où aujourd'hui, effectivement, la BD, du fait de son succès, est rattrapée par les opinions politiques, etc., et au moins, en tout cas, autant on peut se poser des questions sur ce qui anime Charlie Hebdo, en ce qui concerne Scott Dilbert, c'était Trump.
Ouais. Tiens, vous qui aimez bien les quiz, je vais vous quizer.
Hein,
t'es prêt? On est un strip anglais.
J'ai le droit de jouer
le mec. Ouais, bien sûr. Mec amateur de football.
Handicap.
Bravo. Trop fort.
Non, mais c'est trop rapide là.
trop fort.
Mais il ne travaille jamais. Et pourquoi vous posez cette question là
juste pour voir, puisqu'on parlait de strip.
Ah ouais, handicap.
Ça, c'était super en strip.
Ouais, mais c'est anglais, ce handicap.
Oui, c'est anglais, mais ça reste du strip.
Un mec qui ne bossait jamais.
Ignoble avec sa femme.
Il est ignoble avec sa femme. Il passe sa vie au pub à draguer des petites gonzesses. C'est un handicap. Mais je crois que c'est pas son vrai nom en Angleterre. Nous, on l'a traduit par handicap.
Ouais, je sais plus. En tout cas, c'est une figure dans tous les milieux footballistiques.
Ouais.
Les clubs d'ultra, tu le vois très très souvent. Bon, une institution. Encore des news ou on s'écoute un peu de Zik ?
On s'écoute un petit peu de Zik, ouais, ça serait pas mal.
Programmation à Mr. C.
Face, mate. Very class, isn't it?
£300 to take a class in it. I wanna fight the foul, I wanna bleed the town, I wanna see you alone, 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 alone. I wanna straight the shack, I find me someone to pack, like the light when it's dark, it's dark, it's dark, it's dark. A few stairs about, make it feel like peace in a way, compliment around, consolation, got a twist in it, for a GPO and all the hits in it. I'm gonna hit your business if it's momentary bliss.
God-given insanity, it depends on it. How I feel, how I feel, how I feel. I wanna hear. I'm a hammer and a turned up challenger. I wanna keep on your charm in a canister. Do you inspire like the same bit Salinger? I'm the pig on the Chinese calendar. I've got a shadow like a 5-8 caliber. I wanna move like a new salamander. I live a carry on cause a real scavenger. It's far from tyranny, keeping me from me.
Hit me for the day, for the light that you suffer to come by. Take to my sky, never wanting, only wonder. To live out of reach, sloping family, short to tall. One, two, three, swallow the key. In their footprints, I will follow.
If it's momentary business, I'm gonna hit your business. If it's
le choix musical de Monsieur Carpetto, Fontaine d'ici, bravo, ouais, c'était cool. Alors,
nous recevons justement aujourd'hui El Signor Carpetto.
On lui laisse l'honneur de commencer.
Ah bah oui, comme d'habitude. Ah oui, je suis en train de lui shipper le livre parce que, comment dirais-je, j'arrive
pas. Le nom est super long à dire, c'est ça. Puis non, c'est en estrangesse.
Ça, c'est même pas encore le titre. Le titre, je laissais quand même, je vais pas déflorer son sujet. Mais alors, bon. Le nom de l'auteur, j'arrive même pas à le lire.
Ouais, je vais vous parler de ça. Alors, excusez mon accent. Hein. Le titre de la série, c'est Something is Killing the Children.
Bien, moi je dis
Les plus attentifs. Les plus attentifs d'entre vous noteront que ce n'est pas une nouvelle série, effectivement. Mais quand on fait une émission début janvier, il n'y a pas beaucoup de sorties. Alors je me suis dit, allons chercher dans les placards de la librairie des vieilles séries qu'on a adorées. Et c'est le cas de cette série. De quoi ça parle-t-on ? Eh bien, en fait, on va suivre Erika. On est dans un monde où, si les enfants s'imaginent trop un monstre, le monstre prend vie. Et il ne peut être vu que par des enfants, et il massacre des enfants. Ça fait partie des rares séries américaines où, effectivement, des enfants vont mourir. Erika est une chasseuse de monstres. Elle, c'est une adulte qui peut voir les monstres, c'est sa capacité. Et elle chasse les monstres. Elle n'est pas là du tout pour sauver des enfants, elle est là pour tuer des monstres. Si elle peut se servir d'enfant pour tuer des monstres, ça l'arrange pas mal.
Ouais, donc c'est la grande chasseuse.
C'est la grande chasseuse.
Il n'y a pas grand monde qui aime les gosses là-dedans, en fait.
Ah non.
Si.
mais on va voir, elle a un cœur derrière tout ça quand même, Erika.
Oui, oui.
C'est une série assez incroyable et le scénariste de cette série n'est autre que James Tanyon. James Tanyon que vous connaissez peut-être pour...
Il a une petite maison près du lac.
Ouais, voilà, exactement. Nice House on the Lake qui a été un des gros succès de toutes les séries que cet auteur a sorti parce qu'il a scénarisé quand même pas mal de choses.
Ouais, il est prolixe. Ouais. Et c'est vraiment bien ça. Il y a un côté un peu Buffy contre les vampires, un petit côté ça. De Stephen King aussi,
ça mélange un peu ça avec ça, ouais. C'est du Buffy beaucoup plus adulte et beaucoup
plus mature.
Plus mature.
En tout cas, c'est l'image que j'ai de Buffy, un truc quand même très adolescent. Mais je regardais pas trop en fait.
Ouais,
je vois bien la starlette et tout, mais et puis un peu une espèce de blond peroxydé là qui devait être un vampire, une espèce de pré-Twilight quand même.
Ouais, a priori,
mais ça c'est beaucoup mieux. Ça, c'est beaucoup mieux.
Bah, j'ai jamais trop regardé Buffy, donc je ne pourrais pas en parler, mais effectivement, je trouve que cette série, elle emporte.
Rien que la typo du titre, en fait. Je trouve que quand tu es à l'intérieur, le truc formaté des. Enfin, clair des. Voilà, tu vois, là,
dans la page de garde, il y a quelque chose de très horrifique dans cette typo, dans le choix de.
Comme un truc gravé sur, tu vois, sur un mur, avec ses majuscules, comme ça. Ouais, c'est chouette.
C'est vraiment très chouette.
Mais je sais pas combien il y a de tomes, ça. C'est long,
non ? Alors, en fait, c'est une série.
Il est malin, il est en train d'essayer de placer une série en 25 tomes, reliure de cochon.
Il va vous dire
touche la qualité.
C'est des petits livres, ça se range, ça mange pas de pain.
Alors, la mauvaise nouvelle, entre guillemets, c'est qu'aux États-Unis, l'auteur vient de signer pour 100 chapitres, ce qui fait beaucoup 100 chapitres, sachant qu'un tome équivaut à 3-4 chapitres en fonction.
Putain, c'est du manga, quoi.
33.
Voilà, exactement. L'avantage de la série, je trouve, c'est que elle est découpée en cycles et chaque cycle est en 3 tomes. Donc, il y a les 3 premiers tomes, vous avez une histoire quasiment complète. Puis le 4e tome, qui est un tome de transition. Et puis après, il y aura 3 autres tomes. Pour l'instant, il y a 8 tomes de sortie dans cette série. C'est soufflant. J'ai pas dit le nom du dessinateur. C'est un dessinateur italien, Werther Del Edera. Si Matadora m'entend,
Werther, vous dites
Deledera.
Werther, c'est des bonbons.
Voilà, donc dessinateur italien. Qui a un dessin. C'est pas un mot péjoratif, mais assez jeté. Il y a quelque chose de graphiquement. On a l'impression qu'il laisse son trait aller, ce qui rend ça très. Dans le mouvement, je dirais. On a vraiment l'impression du mouvement continuel.
Ouais. J'aime bien la tronche de l'héroïne. Je trouve qu'elle est pas mal aussi, avec ces espèces de tours de dieux tout noirs. Tu sais pas très bien si c'est la fatigue ou du maquillage.
Vu la nature du sujet de cette histoire quand même un peu particulier, je serais quand même tenté de vous demander qu'est-ce qui vous plaît, vous, quelqu'un de sensé, quelqu'un qui me paraît
mais
normal.
Pourquoi ça te plaît, ça ?
Honnête travailleur. Qu'est-ce qui vous plaît ? Pourquoi vous avez envie de le conseiller au plus
qu'est-ce
jeune
qui
de
chez toi ? Qu'est-ce qui va pas chez toi ?
Bah, j'ai toujours eu un attrait pour les histoires horrifiques. Et là, je trouve qu'on est sur une histoire horrifique horrifique qui est en plus ce qu'on peut reprocher aux histoires horrifiques, c'est la répétition parfois, et puis bon, une fois qu'on a compris le gimmick, on finit par peut-être s'ennuyer. Là, c'est pas du tout le cas. Je trouve qu'on a quelque chose de très très efficace dans la narration. James Sanyon est un narrateur incroyable, et donc la narration va nous emporter. Et même si on n'est pas fan d'histoires horrifiques, je trouve qu'on est, quoi qu'il arrive, emporté par l'action du récit. Donc il y a quelque chose d'entraînant comme ça, qui donne envie de découvrir. Et en plus, on s'attache très rapidement à Erika, qui est le personnage central de cette histoire, et qui est un personnage hyper attachant dans toute sa façon d'agir. Même si au début, on sent qu'elle n'a pas d'affect beaucoup pour les gamins, il y a quelque chose de très attachant dans sa façon d'être. Voilà.
Eh ben, c'est très bien. C'est ça que je voulais savoir plus, parce que quand même, tueur d'enfants.
Heureusement, moi, vous êtes là pour détendre l'atmosphère, c'est
ouais,
ça?
Ouais, et puis, il vous aura pas échappé, Charles, tous les deux, qu'il se passe de nouveau sa chie grave en Iran, de nouveau les barbus massacrent et torturent et martyrisent sa population. Et dans le cadre de la bande dessinée, il y a eu, déjà depuis bien longtemps, il y avait eu Persepolis, avec Marjane Satrapi, qui avait raconté comment, à travers son exil obligatoire, effectivement, elle racontait ce qui s'était passé en Iran. Et bien là, plus actuel, bien plus récent, paru aux éditions Marabule, est sorti, fin d'année dernière, iranienne, un ouvrage que l'on doit à mesdames Eric Dabré, Aran de Shaddad et Zainab Fasiki. Parti pris, graphique radical, on va dire. Pas de décor ou très peu de décor, des aplats hyper colleux, des aplats flashy. Donc ça peut surprendre.
Un truc de drogué ?
Bah ouais, bon, alors c'est peut-être aussi le fait d'avoir trop abusé de LSD quand j'avais des cheveux qu'effectivement on peut avoir des vilains retours à cause des couleurs. Mais là n'est pas là le propos. Le propos peut-être quelque part qu'il est de mettre de la couleur dans un monde qui finalement avec les couleurs et puis les voiles imposées aux femmes est quand même très sombre finalement avec toutes ces femmes là qui sont habillées en noir. Et on se dit déjà, être iranien, c'est pas tip-top en ce moment. Être jeune iranien ou jeune iranienne, c'est pas génial. Et jeune iranienne homosexuelle, c'est le top. C'est ce qu'on nous raconte à travers ce personnage qui représente, eh ben justement, effectivement, toute une part de cette jeunesse iranienne martyrisée. C'est la peine de mort, on va pas rire, pour ce genre de choses, une femme lesbienne, et puis en plus, qui serait pour être soupçonnée de répandre, le côté d'avoir un petit côté prosélyte en plus, c'est la mort. Donc, en fait, le dilemme de cette gamine-là, cette jeune femme, eh bien, c'est de comment est-ce qu'elle doit rester ou s'en aller, d'ailleurs. Ce sera le titre du prochain morceau qu'on écoutera tout à l'heure. Et on voit justement, alors, comment les gamins et les gamines peuvent essayer de vivre et de survivre. Écoutez, de l'Asie, notre héroïne, elle a des cheveux violets. Vous voyez bien.
Mais elle cherche un peu aussi.
Elle cherche, homosexuelle, des cheveux violets.
En Iran.
Ah ouais. C'est toute la démarche de cette jeune femme emblématique de toute une partie de la jeunesse iranienne qui est de dire, est-ce que je dois rester ou partir ?
Histoire vraie ?
Pour moi, c'est vrai, dans la mesure où effectivement, c'est le et c'est fort bien résumé dans une case où il dit le problème de l'Iran, c'est que toute l'élite, c'est un peu pareil pour la Russie, pour tous les pays autoritaires avec des dérives autoritaires, et ben les élites elles se barrent. Et comment voulez-vous faire une révolution structurée ? Comment voulez-vous reconstruire un pays après des barbares si toutes les élites sont parties à l'étranger ? C'est ça aussi le problème que se pose notre héroïne et qui se dit effectivement si qu'est-ce qui sert le plus les barbus ? Que je reste ou que je m'en aille ? Donc je vais pas vous spoiler la fin, mais c'est très intéressant. Alors je vous dis encore une fois, le parti pris graphique peut surprendre. Des gros aplats de couleurs comme ça. C'est un peu, c'est très flashy, surtout qu'on se dit qu'on ne s'attend pas vraiment à un sujet d'une telle gravité, du coup, de fait, vous voyez.
T'attendais un truc plus réaliste ?
Après, ça plaît ou ça ne plaît pas, voilà. Les gros aplats de couleurs derrière, etc., ça plaît ou ça ne plaît pas, voilà.
Ouais, là, je pour une fois, je vois une page, là, puisque vous l'aviez juste devant vous. Voyez. C'est assez géométrique aussi. Hein.
Ouais. Mais je peux vous le passer si vous voulez, comment dirais-je, que je sais par ailleurs que certaines causes vous tiennent à cœur, pourraient le prêter. Ouais. Ou le deux. Et comment iranienne, donc de Éric Darbré, parle effectivement de cette situation totalement affreuse. Quoi. Vous êtes,
Il y avait eu un très bon album aussi sur l'Iran, je crois, que j'avais chroniqué d'une jeune fille qui témoignait de son enfance, qui était sortie l'année dernière. Oh, j'ai oublié le titre. Très belle couverture. Elle racontait notamment l'école.
Céline qui trace mon corps.
C'est ça. Ouais, Céline qui trace mon corps. Il était tout terrible aussi cet album.
Ouais, c'était magnifique.
Sur la condition de la fan. Ouais. Comme quoi les événements, quand même, on les voit arriver quoi.
Ouais. Puis,
dans la BD, il y avait quelque chose dans l'air.
Et l'Iran, la différence de nombre de pays, on l'oublie beaucoup, mais bénéficie d'une jeunesse éduquée. Les écoles sont bonnes, les universités sont bonnes aussi. Mmh. Par malheur, elles ne sont plus mixtes. On nous le dit d'ailleurs. Genre, on n'est pas là pour la rigolade en Iran. Et c'est un petit témoignage aussi, à défaut d'avoir un témoignage de soutien, parce que ce serait très prétentieux, mais il ne faut pas qu'on oublie les Iraniens. Effectivement, quand on voit qu'aujourd'hui, la seule chance qu'ils auraient de s'en sortir, ça serait que Trump leur tape dessus.
Ouais.
Hein ? Il y a eu des moments plus rigolos. Voilà. Et pensée émue pour tous les jeunes et moins jeunes iraniennes et iraniens qui en prennent plein la gueule aujourd'hui. Et c'est affreux, abominable. Donc si vous voulez en savoir plus, c'est aux éditions Marabulle iraniennes que vous trouverez même dans la librairie dont nous tairons le nom. Je suis sûr que... Ah, il fait une grimace, il va en reprendre un stock. Vous allez faire venir le représentant.
Darling, you've got to let me know. Or should we stay or should we go? 'Cause if we say that you are fine, we'd love you till the end of time. So come on, let me know. Or should I stay or should I go? It's always tease, tease, tease. Darling, you've got me on my knees. One day it's fine and then it's not. So if you want us off the plot, so come on, let me know. Should I stay or should I go? Well, should I stay or should I go now? Should I stay or should I go now? Well, if I stay there we'll be trouble. Wow, 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 wow. If I go we'll be trouble. So come on, let me know. Should I stay or should I go? Indecision's bugging me.
It's indecision like molester.
Exactly who I'm supposed to be.
Who is John and she is Esther?
I don't know what you had for tea.
They have never travelled far.
I don't know which clothes even fit me.
I don't even have a car.
So come on, let me know. Well, should I stay or should I go? Well, should I stay or should I go?
I've got heels for my supper.
Should I stay or should I go now?
I've got heels for my supper.
Well, if I stay there, we'll be trouble.
Steak and scallops, bread and butter.
If I go, it will be trouble.
I've got heels for my supper.
So come on, let me know. Should I stay or should I go?
Tout ça au ukulélé, vous l'avez bien compris, hein. Tout ça au ukulélé. C'est ça l'intéressant de ce groupe. Ouais. Deux semaines de suite qu'il nous passe ça, je pense qu'il a une crise.
Ouais, mais après, si j'ai le temps, je vous ai remis une bonne zig de poisson-chat.
D'accord. Puisqu'on parlait de la condition féminine, alors en Iran, moi je vais vous parler de la condition féminine, mais en France, en fait, dans l'histoire de France. J'ai découvert, je crois que vous l'avez aussi un petit peu feuilleté, monsieur Carpetto, si j'ai bien compris, les grandes oubliées, pourquoi l'histoire a effacé les femmes. On m'a prêté ça.
Tout à fait. La version BD.
Ouais, la version BD, parue chez Iconoclaste, Titiou, Lecoq et Marie Dubois, nous propose en fait de faire sortir de l'invisibilité dans laquelle elles ont été plongées les femmes dans l'histoire française. Et même on peut élargir, puisque vu qu'on va remonter vraiment à des temps très très anciens, c'est-à-dire à l'âge des cavernes, presque une histoire presque de la femme quoi aussi au départ.
L'histoire de
initialement. Au début, c'est vraiment très large. Et après, on va se concentrer sur l'histoire de France, puisqu'on va croiser la Voltaire, nos bons vieux Louis, etc., notre Napoléon, etc., etc. Le projet, c'est une espèce de révélation. Alors, si on en croit le récit qu'on a fait, c'est une espèce de révélation que Titou Lecoq a à l'école, comme quoi vraiment les personnages féminins, ben on les trouve pas, quoi. Ou alors, quand on les trouve dans les manuels, exemple, on va partir de là d'une espèce de vignette qui nous présente l'homme primitif, l'homme de l'âge des cavernes. Alors l'homme avec la fourrure, la grosse massue, dans une position finalement presque héroïque, puisque hein, tu vois, c'est lui qui est le défenseur. Et puis derrière, elle remarque qu'il y a une nana qui est en train de faire, on sait pas trop quoi, avec une pauvre tête. Et vraiment, elle se dit putain, mais les femmes étaient-elles vraiment comme ça, quoi? Et je pense que c'est cette idée-là qui a mûri et qui fait qu'elle fait, elle va voir plein d'universitaires et elle essaye de voir effectivement comment ça se fait que les femmes soit sont absentes, soit sont vraiment, enfin rabaissées, enfin qui a une image vraiment de femmes au foyer qui leur colle du début à la fin, quoi. Alors, ce qui est intéressant, c'est que l'idée, c'est que on pourrait croire que l'histoire a été linéaire, c'est-à-dire que voilà. Avant, c'était horrible, et puis, bon, c'est pas encore top, mais on est dans la phase progression. On va toujours de l'avant. Et en fait, ce qu'on découvre, c'est que non, la condition féminine, la place qui était accordée aux femmes dans l'histoire, etc., vraiment, c'est des coups d'avancée, de recul, d'avancée, de recul. En fait, c'est vraiment chaotique, et ça dépend vraiment de à quel moment de l'histoire on se trouve, quoi. Par exemple, dans les cavernes, on pourrait s'attendre la femme au fond de la grotte, qui allait, etc., qui se cantonne vraiment dans son rôle de femme à la caverne. Mais en fait, on nous explique que non, quoi. Surtout avant le néolithique, par exemple, comme on était nomades, les nanas se battaient, les nanas faisaient tout, et puis c'était pas que des pondeuses. Elles avaient trouvé des techniques avec leur allaitement pour avoir des naissances très espacées. Et vraiment, on va apprendre des tas de choses. On va casser plein de clichés aussi. Et puis soulever plein d'interrogations, on va rétablir
vous
des réalités.
Vous faites le ménage, quoi. Vous cassez les clichés. Vous
Ouais. Mais c'est ça, et c'est vraiment très intéressant. Et c'est vraiment très intéressant. Tu remontes l'histoire, et vraiment, c'est. Tu réalises des tas de trucs, quoi. Notamment comment les clercs finalement sont les premiers acteurs du patriarcat. Vraiment ceux qui en font presque une doctrine. Tu t'apprends que les Vénus, tu sais, de la préhistoire, finalement, on n'est pas très sûr de ce que ça veut représenter. Vraiment. Et dans les cavernes, ça vous aurait plu, Roger. C'est pas des pénis qu'on dessinait, c'était vraiment des vulves. Enfin, tu vois, il y a vraiment eu. Tu découvres des tas de trucs, on casse plein de clichés. C'est passionnant. Et ce qui est bien aussi, alors dans ce genre de BD un peu universitaire quelque part, parce que c'est un essai au départ. Hein, et puis il y a plein il y a plein d'universitaires qui témoignent. C'est un peu encyclopédique ou didactique, etc. Le truc en BD, c'est qu'on essaye toujours d'ajouter de l'humour par le dessin, des petites situations, un petit personnage dans la, tu sais, sur le côté qui met une bulle. Et c'est pas facile de trouver la justesse, la bonne blague, en fait. Parce que le sujet, quand même, est très sérieux, universitaire. Et là, je trouve qu'elles ont vraiment trouvé le ton qu'il faut. C'est parce que vraiment, il y a des trucs très rigolos. Donc suivez l'histoire des femmes françaises, incarnées par, celle qu'on le va que les deux autrices, je découvre qu'il faut dire autrice. Ça c'est intéressant, il y a des réflexions sur les mots aussi qui sont hyper intéressants. Il faut dire autrice. Invente une Gwendoline qui va remonter le temps comme ça et on va la suivre quelque part dans sa condition féminine à toutes les époques et c'est vachement bien. Ouais, c'est vraiment très très bien.
Moi ce qui m'a beaucoup surpris dedans, c'est vraiment la relecture de l'époque du Moyen-Âge et comment en fait c'était pas du tout l'âge sombre qui nous est décrit depuis longtemps et que au contraire les lumières ont complètement détruit la place
Voltaire,
de la femme,
l'horreur
des lumières. Voilà, donc c'est hyper intéressant. Ça déconstruit plein de choses. C'est vraiment très fort.
Les femmes dans la résistance et tout. Ouais, c'est les femmes artistes. Ouais, c'est hyper bien. Titou Lecoq, Marie Dubois, Les Grandes Oubliées. Pourquoi l'histoire a effacé les femmes chez Iconoclaste. Et en plus, je trouve que le dessin est plutôt sympathique. Ah, quoi. Ouais. On est dans les tripes, Riyad Satouf et tout ça.
Marie Dubois, une dessinatrice hyper efficace. Toutes ses BD plutôt de grande réussite à chaque fois. En tout cas, nous, on a adoré Meuf qu'elle avait fait avant.
Voilà. Qu'est-ce que vous dites de ça, Roger ?
Rien, moi je dis c'est très bien.
Ouais, très chouette bouquin. Alors, c'est à vous, monsieur.
El Signor Carpetto.
Oh, c'est parti. Alors,
qu'est-ce qui va essayer ? Série en 75 épisodes.
Non, j'ai ramené plein de choses. J'ai le choix entre de la nouveauté. Je vais quand même vous présenter de la nouveauté. Je dirais de l'ado adulte.
J'aime bien la couve.
Juniba, dessinateur. J'ai vraiment pas travaillé pour cette émission, donc je vais pas trop parler.
Au moins, il le dit. L'aveu en direct.
Waouh.
C'est comme ça, pourquoi s'emmerder ?
Les fables du roi des aulnes de Juniba, qui est un dessinateur qui avait fait avant une relecture de 20 milieux sous les mers, qui était une très très bonne BD. Cette nouvelle BD est aussi assez incroyable, une grande fable à travers un recueil de petites histoires courtes qui vont se montrer toutes liées les unes aux autres. On va suivre dedans une jeune fille qui va rencontrer Goupil le renard.
Sacré Goupil.
Cette jeune fille a
c'est
plutôt...
C'est une métaphore.
Oh là non, pas du tout. Cette jeune fille est plutôt rejetée par les siens, par l'humanité, et elle a le cœur sur la main quand il s'agit d'aider les animaux. Elle va donc aider Goupil, et bien mal lui en a pris, parce que Goupil va comprendre que peut-être qu'elle a un faible pour les animaux, et il va tenter de profiter d'elle, en tout cas de profiter de
sa
naïveté.
C'est une métaphore.
Non, pas du tout. Il va profiter de sa naïveté et il va se servir d'elle pour aller voler des choses dans le royaume des animaux. Ça va mettre forcément très en colère cette jeune fille et pour la première fois, elle va comprendre la colère. Et ça commence sur cette fable-là. Et cette fable-là va nous présenter en fait les trois personnages principaux de cette histoire qui sont Goupil, cette jeune femme et le roi des aulnes qui est un immortel bien solitaire.
Pas mal.
Qui se joue de l'humanité et qui se joue des autres, toujours.
J'aime bien les histoires comme ça, où tu as une variété de points de vue. Fantasy, c'est ce qui faisait sa force,
tout à
en fait.
Les
deux histoires se faisant écho, ouais. Et en fait, graphiquement, je trouve que c'est très joli.
Ah oui, c'est un dessinateur qui va...
J'aime bien.
Il tente plein de choses, et entre chaque page, on peut être très surpris par justement toutes ces tentatives. Ça peut être un peu effrayant, parfois, dans les images. Ça n'est jamais dans le récit, hein, mais il va vraiment chercher plein de styles graphiques.
Ouais,
il va mélanger le noir et blanc, la couleur. C'est surprenant de bout en bout et il arrive à lier toutes ces fables les unes aux autres de manière extrêmement intelligente. On va parcourir de nombreuses années en compagnie de ces personnages-là. Ça se montre très critique envers l'humanité forcément, mais c'est très très beau. C'est assez soufflant. Du coup, c'est les fables du roi des aulnes.
Et puis, quand t'as un personnage avec un grand casque et des grandes cordes comme
il est chouette. Très effrayant.
Mais je trouve que la couve est très réussie. Et les quelques pages que je vois quand vous inclinez le bouquin et que vous le feuilletez là devant vous, c'est vraiment très, très, très chouette. Et varié, effectivement.
Oui,
ouais. Très chouette.
Voilà, donc très belle BD. C'est de la BD ado-adulte. J'ai encore du mal à cerner exactement la cible. Je sais que les adultes y prendront beaucoup de plaisir. Et j'espère que des ados qui nous écoutent peut-être tenteront la lecture parce que pour moi, c'est vraiment, vraiment adapté. Pas pour un public jeunesse, mais voilà, à partir de 14 ans, sans aucun souci.
C'est chez qui ça ?
Ça, c'est chez Bayard Jeunesse, figurez-vous, comme quoi.
Je vois que Roger le note.
Je note.
Dans le grand cahier.
Juniba, du coup, qui est l'auteur principal, mais il faut savoir.
Il a déjà fait des choses, lui ?
Oui, comme je disais au début, il a fait du coup une relecture de 20 milieux sous les mers.
Il s'appelait, rappelle-moi. La question qu'il fallait pas poser.
Non, mais si, en plus, je ne connais.
Il s'appelait 18 000 pieds sous les mers ?
J'ai un petit trou ici. Si au un moment dans l'émission ça me revient, je le crierai dans le micro.
Très bien.
Et le lettrage est très très important, donc je vais quand même préciser que quelqu'un a fait le lettrage, Aditya Bidikar, parce qu'il a une importance vraiment dans ce récit, dans le choix de la police d'écriture qui va évoluer en fonction de l'évolution de l'humanité. C'est vraiment très beau.
Ouais, ça me branche bien ça. Ah, c'est tentant. Interlude musical.
Tout à fait.
C'est une arme, et elle est une arme.
She's a weapon. Yeah, she's a weapon.
ça, ça claque. Voilà.
Ça, c'est bien, l'idée. C'est bien, ça.
Ouais, c'était beau, ça.
Alors, rappelez-nous de qui c'est, She's a Weapon.
Twisted, j'ai oublié le deuxième mot. Je vais faire une Carpetto. Je veux pas dire de bêtises.
Personne n'a rien préparé, en fait.
Si, non, mais là. En fait, si les gens veulent savoir notre playlist, il faut qu'ils aillent sur notre bloge. On va pas tout leur donner comme ça. Il faut qu'ils fassent un petit geste d'amour.
Bon, bah, très bien. Et, ça, comme ça, et puis c'est tout.
Et j'ai retrouvé pour le nom, sans l'aide de personne, c'est Mobilis, l'autre BD de Juniba. Très, très bonne BD.
Maintenant que vous me le dites, effectivement.
Merci Internet.
Merci Internet. Je connais pas Jujol, mais il est sympa. Il est utile au moins. Alors Roger.
Alors on va faire dans le fun, on va continuer dans le fun avec Libre d'obéir.
C'est bien ça.
Bien, un ouvrage que nous devons à messieurs Johan Chapoutot et Philippe Girard. Johan Chapoutot, le scénariste, historien connu comme étant un des grands spécialistes de la Seconde Guerre mondiale. Il a publié déjà aux presses universitaires de France. Il a paru de faire paraître pas mal de bouquins chez Gallimard, à la Documentation française et également aux éditions du CRIF. Vous voyez donc comme quoi un monsieur, tout ce qu'il y a de plus sérieux, un historien. Et Philippe Girard, lui, est un dessinateur qui a déjà publié pas mal de choses, mais dont j'ignorais tout. En fait, c'est donc une adaptation en BD de ce bouquin de M. Johan Chapoutot qui fait un parallèle, dont je découvre tout, en fait, entre les pratiques de management moderne des entreprises avec ce qu'ont tenté de faire les nazis à travers l'instauration du Troisième Reich. Et c'est assez, comment dirais-je, flippant, parce que c'est rudement documenté, et à travers une division en chapitres, comment dirais-je, éclairant. Alors c'est marrant, parce que ce qui m'a plu, moi, c'est ce petit côté infographique, vous voyez, sur les pages, comme ça.
Là aussi, les couleurs...
Ouais, mais...
ça flash mal.
Ça flash, mais ça soulage, parce que, je veux dire, le propos est quand même... faut pas perdre le fil, etc.
C'est très influencé, je trouve, beaucoup des pages, vraiment plus par les affiches ou les choses comme ça que par la bande dessinée.
Bon, oui, bien sûr, à ce niveau-là. Et je dirais presque aussi avec une façon, presque un infographiste qui aurait pu faire ça, voyez, avec comme des trucs qu'on pourrait trouver en entreprise, avec machin, etc. On vous a dit comment faire. En fait, on nous explique comment toute une tripotée de vilains affreux, aux noms tous aussi prononçables les uns que les autres, forcés, ils sont allemands. Wilhelm Stuckart, Walter Labs, Herbert Bache, Hans Globk.
On avait dit pas les accents.
Et Reinhard Hoen.
Ah, les Reinhard, c'est toujours des gars sympas.
Ouais. Et toute une galerie d'affreux qui, pendant l'aventure, comment dirais-je, du Troisième Reich, vont se lancer dans à fond dans le nazisme, mais dans le plus dans le côté économique. On va rationaliser l'économie, etc. Et on retrouve, effectivement, tout ce que l'on essaye, la révolution riganienne et thatchérienne essaye de nous vendre aujourd'hui, à savoir, notamment, la disparition de l'État. Et une sorte de management où tout le monde est mis en concurrence. C'est-à-dire que il n'y a pas de chef officiellement, c'est tout le monde est égaux. Ouais, il y en a qui sont un peu plus égaux que d'autres, aurait dit Coluche, mais c'est surtout en fait que tout le monde est en concurrence en permanence, quoi. Et si quelqu'un, soi-disant un poste un peu plus en dessous, peut proposer quelque chose qui va faire marcher davantage l'entreprise, eh ben, tant pis, il peut casser le chef. D'ailleurs, la fonction, c'est aussi de casser le chef, remettre en question les dogmes, donc sous une espèce de couvert révolutionnaire, quelque part, se cache un management hyper brutal où rien n'est jamais établi, où votre place, votre fauteuil ressemble plus à un siège éjectable, et où vous devez sans arrêt totalement vous impliquer, renoncer à votre famille, renoncer à vos amis, vivre une culture d'entreprise à font les ballons, et Johan Chapoutot montre effectivement comment, de manière magistrale, comment, eh bien effectivement, ces professionnels du management, comment dirais-je, fasciste, vont perdurer après-guerre à travers des instituts de formation. Il y en aura un notamment qui s'appelle, alors j'ai mis un petit marque-tapage, mais est-ce que je vais tomber là-dessus, ils avaient créé un institut
où le Julius Hyde Institute.
Ouais, genre, voilà, où on explique, voilà,
pure invention.
Voilà. On retrouve toutes les, comment dirais-je, toutes les, ce qui va de long, ce qui va permettre une certaine forme de développement violent du capitalisme à travers l'adaptation, en fait, en termes économiques, de l'idéologie nazie. Et on croyait en être débarrassé, en avoir été débarrassé à Nuremberg. Eh ben non, il avait troqué le vert de gris pour le costume trois pièces, la cravate et les instituts privés plus ou moins, comment dirais-je, plus ou moins efficaces. Avouable. Voili voilà. Donc c'est pas très très gai, mais c'est très très bien fait et on apprend tout plein de choses. Donc cet ouvrage Libre d'obéir, et moi j'aime bien la couverture, cette couverture de loin où on voit effectivement une employée coincée sur un fond de Svatiska. Mmh. Avec le côté noir, rouge et blanc qu'avait
Ah, il y a une iconographie, hein.
Ah, bah ouais, tu peux pas nier. On est chez Speer, le rouge, noir, blanc. D'ailleurs, c'est ce que les communistes reprendront de leur côté aussi. C'est ce qui marche le mieux. Mmh. Libre d'obéir, ça s'appelle. C'est pas fun, mais c'est très bien.
C'est par qui et chez qui?
C'est chez Casterman, et je vous l'ai dit, donc Joël Chapoutot pour le scénario et monsieur Philippe Girard au dessin.
C'est à qui maintenant? C'est à vous ou c'est à moi?
Non, c'est à vous.
C'est à moi? Ah, ok. Ah, ben moi je reste dans les invisibles alors. Mais cette fois vraiment au sens littéraire et littéral. Vraiment, c'est un homme qu'on voit pas. En fait, je vais vous proposer de découvrir Les Mémoires démons de Terre Noire. Premier épisode d'un duo. Il me semble, puisque c'est écrit 1 sur 2. Messieurs Desberg et Reculé, Henri Reculé. J'ai failli confondre avec Le Reculé. Je ne sais pas pourquoi, au début, j'ai cru que c'était
avec
lui.
Jérôme.
Ouais, avec Jérôme. Il se reforme pour une nouvelle série donc d'espionnage, en fait, pleine de péripéties et de suspense, qui a la particularité d'avoir un père pour héros, donc Aimon de Terre Noire, qui, disons, a acheté un traité d'alchimique, plutôt incomplet, mais assez introuvable, pour faire plaisir à sa femme, Blanche d'Odor. On est au XVIIe siècle, et donc l'alchimie a encore tous ses mérites aux yeux de toute une noblesse, surtout quand elle est un peu désespérée, comme Aimon. Et en fait... alors qu'il pensait trouver un monde meilleur et devenir meilleur, par l'alchimie, il s'efface. Il va devenir invisible. Et du coup, il va rentrer dans les services d'espionnage de notre bon roi Louis. Au moment où
lequel
on le découvre. Alors, question, indice, guerre de 7 ans.
Guerre de 7 ans, je dirais Louis XIII.
J'aime pas ce jeu.
Effectivement, la guerre de 7 ans. Donc on va le retrouver dans ses activités d'espionnage et c'est pas mal d'avoir un espion.
Louis XV, je vous raconte de la merde.
15, ouais, c'est ça.
J'avais dit 13, excusez-moi, 15.
C'est bien d'avoir un espion invisible. Donc on va le découvrir au moment où cette guerre va éclater. Alors officiellement, elle commence avec l'attaque de Frédéric II de Prusse, hein, comme tout le monde le sait, vous le savez, n'est-ce pas?
Bah oui.
Hein, contre la Saxe. Mais en fait, ça a déjà commencé dans les colonies, indiennes et surtout de la Nouvelle-France. C'est la première vraie guerre mondialisée. Et on va vous suivre donc notre espion quand se déclenche cette guerre que nous allons perdre. Et ce qui est bien, c'est qu'on y va. Donc, t'as tout un monde d'espionnage. Alors, il y a un autre espion français hyper connu, à peu près de la même époque. Deuxième question pour le petit Roger. Question d'histoire.
Le chevalier d'Eon.
Exact. Qui avait pour particularité
de
se travestir
en femme.
Ouais, ou inversement. Ouais. Exactement.
On ne sait même plus si c'était un homme ou une femme.
Exactement. Il y a un méchant espion prussien, un diabolique espion anglais, évidemment, enfin, saleté d'anglais.
L'anglais ne peut être que diabolique et le prussien méchant.
Exactement. Alors, il y a une espionne russe.
J'aime bien quand les choses sont posées.
Une espionne russe dont, évidemment, notre personnage va tomber amoureux. Aglaïa, le nom est difficile à dire, charmante, qui a un contentieux avec le Prussien. Et c'est vraiment chouette, c'est plein de rebondissements. Un dessin très efficace, un très bel objet en plus. Moi, en fait, je l'ai découvert dans la boutique dont on taira le nom. Et j'aimais beaucoup parce que, étant invisible au quotidien, il est entièrement revêtu. Il a des gants, il a une grande capeline, un chapeau et un masque de fer. C'est marrant, c'est un côté vraiment aussi très littéraire. Il y a un côté Dumas dans cette histoire. Je trouve que c'est vraiment chouette. Et alors, dessin, boum. Alors là aussi, il y a de la couleur, mon bon Roger. Là, ça commence au Bengale. Hein, tu vois, tu sens l'ambiance du Bengale, la chaleur du Bengale.
Hein, est-ce qu'il va y avoir des feux?
Il y a des beaux aplats noirs. Des feux, comment ça? Des feux de Bengale.
Waouh.
Il anime bar mitzvah, mariage, truc d'entreprise,
tout à fait.
La bonne ambiance.
Tout à fait.
Graphiquement, je trouve très beau, en tout cas aussi, très efficace. Là aussi, on joue avec les couleurs. Il y a un côté un peu italien, moi, je trouve, dans le dessin. Et vraiment, c'est donc un diptyque. Et voilà, je trouvais plus le mot diptyque tout à l'heure. Je vous ai baragouiné un truc de duo ou je sais pas quoi.
C'était très bien.
C'était très bien. C'est passé inaperçu, ouais, vous pensez. Ouais. Et je trouve ça vraiment très réussi. Ça paraît chez Glénat. Un bouquin avec un fond violet, vous pouvez pas le rater. Et des dorures comme ça, entre, tu vois, je trouve que le masque en lui-même est doré. Et quand tu regardes le côté du visage, là, il y a une couleur aussi. Et tu vois une ombre. Il y a vraiment des couvertures de plus en plus chiadées.
Ouais, tout
si
à
je
fait.
Puis me permettre le mot.
Les éditeurs font de plus en plus gaffe aux couvertures, a priori. Ça
ouais, il y a vraiment, ils ont tenté de jouer un truc très très visuel. Mmh. Ah, ça s'appelle Invisible, tu me diras. Mémoire démon de terre noire, premier épisode du diptyque. Monsieur Stéphane Desberg. Et puis Henri Reculé. Voilà, moi j'avais ça à chroniquer. Interlude musical.
Yes, sir.
C'est le gamin qui a ramené ça.
Trying to act
Clifford Modes, Amy Taylor, impeccable, Nudge It. Très très bon choix, l'ami. J'ai oublié de dire un truc. En fait, je cherchais à qui me faisait penser le dessin. Et de la BD Invisible que je vous parlais précédemment. Alors, je suis un peu frustré, donc je vais le dire. À Eduardo Risso. Okay. Je ne sais pas si vous vous souvenez de Je suis un vampire, par exemple. Et je trouve qu'il y a vraiment quelque chose dans le dessin de Reculé et de Risso qui se ressemble.
Pas
et
moi, Jérôme,
j'aime beaucoup ça. Non, pas Jérôme le Reculé, ouais. Ouais, c'est trompeux.
Mais c'est chez qui, ça?
C'est chez Glénat.
Il y a un petit quelque chose dans la colorisation, dans les aplats, le dessin de Bruno aussi, je trouve.
Ouais, c'est vrai. Cette espèce de presque fausse ligne claire, effectivement, que tu as aussi un peu chez Bruno. Alors, je crois pas qu'on l'ait chroniqué. Vous aviez des doutes, mais je crois pas qu'on l'avait chroniqué.
En fait, par contre,
je me souviens de l'avoir vu dans votre vitrine.
Ouais, c'est un livre qu'il a pris en haut d'une pile au hasard avant de venir, parce qu'il était à la bourre quand je suis arrivé.
Ça m'a été soufflé par Monsieur Roger.
Alors, ça s'appelle Rode.
Rode Isnun.
Vous aimez vous créer des problèmes, quand même. Ouais. Vous aimez vous créer des problèmes.
Comment vous écrivez ce nom?
Démerdez-vous, Roger.
N. Et voilà. On est en Suède pour ce petit polar.
Tu m'étonnes.
Le petit polar à la Frère Cohen. On est vraiment dans une ambiance Frère Cohen, Fargo des Frères Cohen aussi, pour
les
connaisseurs.
Losers magnifiques.
Des losers magnifiques, exactement.
Ah, cool.
On va suivre un inspecteur en assurance qui arrive dans un petit village. Lui est là pour enquêter parce qu'a priori quelqu'un de très riche vient de décéder et lui va devoir définir à qui va être versé cet héritage en fonction de si c'est un assassinat ou une simple mort. Et donc il est là pour enquêter sur
une simple mort,
une mort accidentelle. Excusez-moi.
Vous les jeunes, vous avez toujours une vision assez bizarre de la mort,
nonchalante.
Ouais, moi qui m'en rapproche, je dis pas les mêmes choses.
Vous dites madame.
Bah ouais, et puis moi je la croise déjà quand je vais promener Floppy. Elle vient me demander, ça va? Ouais, vous inquiétez pas. Un peu tout.
Petit Floppy doit lui faire peur quand même.
Ouais, une petite toux, Roger. Non, ça va. Donc, Redisnone,
cet agent en assurance est donc là pour enquêter. Et il est réceptionné à l'aéroport de cette petite ville par un jeune homme qui a l'air fichtrement agaçant et qui est censé l'amener. C'est son taxi, il est censé l'amener dans la petite ville et il fume des clopes dans la voiture, ce qui a l'air d'énerver notre agent en assurance qui, dans un élan de colère, va lui mettre un coup de pelle dans la tête.
Ouais. On a tous une pelle sur soi.
Ça commence comme ça, sauf que, on le comprend très vite, en fait, il y a une sorte de double maléfique qui souffle des choses à notre agent en assurance et qui, pour l'instant, se tient parce que ce coup de pelle qu'il a mis dans la tête de ce petit gamin était un coup de pelle mental. Il n'a pas vraiment...
C'est la deuxième BD où il y a des gamins qui meurent. Moi, je dis ça.
Ouais, non, il voyait pas
qu'il meurt. C'est un coup mental.
Voilà, c'est mentalement, il en avait marre et il lui a mis dans sa tête un coup de pelle. Ça commence comme ça et on va essayer de voir à quel moment ou non cet agent en assurance, cet inspecteur en assurance va vriller. Et surtout, on va essayer de suivre l'enquête à travers ses yeux à lui parce que c'est le héros de l'histoire qui semble avoir quand même bien un pet au casque. C'est très bon, c'est parfois un petit peu drôle. On a vraiment ce ton des frères Cohen, je trouve, dans la narration, qui fait qu'on peut rire de situations qui sont pourtant dramatiques. Mais c'est assez, ça nous emporte dans le récit.
Un dessin que j'aime bien, comment dirais-je, très ligne claire, minimaliste.
On est dans la ligne claire, très minimaliste, effectivement. Dans la colorisation, on est juste sur du rouge et du bleu. Le rouge semble apparaître quand l'esprit maléfique de notre héros lui susurre à l'oreille.
D'accord. Voilà. Et c'est à l'italienne ?
C'est un format à l'italienne, c'est édité chez Bang. Ça a reçu, alors certains d'entre vous le connaîtront parce que ça a reçu ou c'était dans la sélection Quai des Bulles de l'année 2024.
Ah, oui.
Ça n'avait pas reçu le prix, mais ça l'aurait mérité, je trouve. C'était vraiment une très très bonne BD. Voilà.
Vous êtes venu nous chroniquer une BD de 2024 ?
Oui, et peut-être même 2023 si vous voulez mon avis, parce qu'il y a une rupture dessus.
Je l'ai fait parce que, comment iranienne, datait de 2024. Mais vous
c'est
êtes un
vrai
peu comme les Jones. Mais ouais, mais en fonction
là là,
du
on
moment.
Est, on
mais...
est dans l'urgence de la voilà, nouveauté. Maintenant, ce monde me fatigue.
Il y a un petit Belge qui débute là en ce moment. Il s'appelle Hergé. Je pense qu'il va faire quelque chose.
Par contre, je résiste pas au plaisir de vous demander de nous dire comment il s'appelle.
Ah oui, donc l'auteur, c'est Lynn Hart. Et notre inspecteur en assurance s'appelle Arne Gunnarsson. Je m'en suis pas mal sorti.
Ouais,
il est bon.
Ouais.
Donc vraiment polar nordique avec cet esprit frère Cohen. Très bon.
Très bien. Ouais, non, ça a l'air chouette. Et je me souviens qu'il était dans la devanture de la boutique.
Oui, vous l'avez certainement retenu de la sélection Quai des Bulles.
En 2012. Alors, bah, moi, bah, ça remonte à 2025, hein, si vous allez par là. Ah, il y a même une marque de floppy, l'enfoiré. Regardez, il a mordu Il a mordu le coin de...
Alors,
de
on ne reprend pas de BD à la librairie qui dont on ne les reprendra
j'ai
pas.
J'ai dû l'acheter comme ça, mordu.
Et... j'ai été témoin.
Regardez, je l'ai acheté. Ouais, ça doit être floppy qui me l'a... Il a mordu de langue, ça, je reconnais. J'ai essayé avec ses chicots, j'ai mesuré ses chicots en rentrant. Kernock le pirate, il m'a mordu mon Kernock le pirate. Un ouvrage librement adapté du roman d'Eugène Sue, du même nom d'ailleurs, Kernock le pirate, par notre bon ami monsieur Riffreb. Il continue dans sa veine, chez Noctambule.
Sa veine marine.
Ouais, sa veine marine. C'est marrant parce qu'un jour on l'avait interviewé et il nous avait raconté comment son père le saoulait à l'emmener régulièrement en bateau à la pêche. Il en avait marre. Et somme toute, il ne devait pas en avoir si marre que ça parce qu'il continue cet univers. Même si effectivement, à chaque fois, on ne peut pas dire que ça soit du fun à bord. Hein. Kernock le pirate, c'est quand même quelqu'un d'assez radical hein, pour distraire les marins de sa bande. Après avoir pris d'assaut un bateau, il attache tout le monde sur le bateau adverse et il y fout le feu avec un super feu d'artifice. Hein, c'est quand même...
C'est un corsaire qui avait l'esprit un peu plus libre que les corsaires de l'époque.
Voilà. Et alors que, pareil, il va abandonner les naufragés, il va abandonner les marins d'un bateau adverse qu'il a pillé, consciencieusement pillé, mais à bord duquel il n'a strictement rien laissé. Et il dit, mais comment on va survivre? Et un des marins de Kernock lui dit, ceux qui ont encore des bras pourront s'exercer à la perche en haute mer, comme nous, sur notre bateau, de toute façon, qui s'appelle la Hyène, la bien nommée la Hyène, on a strictement juste ce qu'il nous faut. Et ce marin dit au capitaine, vous avez quand même conscience, capitaine, que les plus vivants vont dévorer les moins morts. Et alors, est-ce ma faute si Dieu a créé le cannibalisme? Non, mais Dieu n'a pas dit de manger son prochain. Qu'est-ce que j'en sais, moi? Dieu m'a jamais adressé la parole. C'est Kernock.
Ah, il y a du dialogue.
Ouais, il y a du dialogue. Et alors, Kernock, le pirate, c'est un...
C'est un roman.
Ouais, un roman de Eugène Sue. C'est marrant parce que ça m'a donné envie du coup de... Eugène Sue, j'en savais rien. Donc j'ai lu des choses, une petite bio de Merci Wikipédia pour resituer un peu le perçu. Qui a une vie très perçu.
Le garçu était...
Le perçu qui a eu une vie très mouvementée. Et Kernock, le pirate, narre donc les aventures d'un pirate... mais peut-on être heureux? Et peut-on être heureux quand effectivement, même si on remplit de...
confondre avec la grenouille.
On remplit son... Non, ça n'a rien à voir avec la grenouille. Quand même si on remplit ses coffres d'or, peut-on être un pirate heureux? C'est dur quand on a quand même l'épée chargée de sang. Et c'est ça, en fait, qui rôde tout autour du père Kernock. C'est-à-dire, c'est une malédiction. D'ailleurs, l'ouvrage commence et on voit Kernock qui est descendu à terre. Il n'aime pas être à terre. La terre, ça le fait chier. Il a le mal de terre, etc. Ça le saoule, la terre. Mais il va sur terre pour essayer d'avoir la bonne aventure avec auprès d'une espèce de simili sorcière qui habite dans un petit bled breton. Et on voit qu'effectivement, le problème de Kernock, c'est peut-être sa conscience quelque part qui le hante, même si il est accompagné dans ses aventures par une superbe femme qu'il a shippé sur un bateau négrier et qui l'accompagne dans ses conquêtes. Et les combats sont totalement... Alors, on connaissait déjà le talent de monsieur Riffreb pour dessiner à l'univers marin, mais là j'aime bien parce qu'il y a pas mal de bastons, et une baston qui a déjà eu lieu d'ailleurs dans un vieux Barbe Rouge, où Barbe Rouge se débarrasse de pièces d'or et il bombarde parce qu'il a plus de poudre, il a de la poudre mais il a plus de mitraille, et il met des pièces dans des canons pour bombarder les adversaires. Et là Kernock il fait pareil sur des putains de rosbifs fourbes anglais qu'il va niquer grâce à ses pièces d'or. Et ouais, Kernock, faut pas le faire chier. Et curieusement, allez, je vous spoil juste ça, il finira pas pendu. C'est ce qu'on sait, à quoi on pourrait s'attendre, mais est-ce qu'il va finir mieux? C'est à voir. En tout cas, il ne finit guère mieux que cet ouvrage dont je vois les morsures qui portent les morsures de mon chien fidèle qui va prendre une sacrée huissée quand je vais rentrer. Vous avez vu dans quel état
ça se fait plus, ça, Roger? Hein? Ça se fait plus des huissées. Ouais, ah non, les huissées, c'est fini.
Il n'a plus le droit de ficher une huissée à son chien.
Tu lui fais un petit câlin.
Un petit câlin, il m'a pourri, mon Kernock le pirate.
Alors, ce qui est rigolo, c'est qu'il y a un autre Kernock le pirate qui était sorti chez Glénat.
Tout à fait.
Avec Brémo au scénario. Et Alexandro Corbettini au dessin. Merci Google de m'avoir fait retrouver, mais je me souvenais que j'avais chroniqué un Kernock qui était très sombre, celui-là, en noir et blanc.
Celui-là aussi, même, vous savez, ça fait longtemps que, comment dirais-je, Monsieur Ifrem n'a pas utilisé de bleu dans ses peintures. On est dans l'ocre, le noir, le marron, etc. Plein de déclinaisons du rouge sombre, mais le bleu, quoique si, il y en a un petit peu, là, quand même, je raconte des conneries, mais bon, c'est du bleu sombre.
C'est
du
marrant, la vignette là en bas, on dirait du V pour Vendetta.
Il y a... il lui a mis une petite tête de Captain Crochet aussi.
Oui et non.
Ça, c'est un mélange.
Mais c'est pas de la critique, hein, Roger. Au contraire.
C'est très bon. Moi-même, j'y ai pensé aussi, mais oui et non, parce qu'il n'est pas aussi classe, regardez, que Captain Crochet. Il est vraiment habillé en rayon. Regardez, il a des vieilles bottes toutes pourries qui pendouillent. Le froc est trop
court.
C'est
la fin de la semaine, il n'a plus rien à se mettre.
Ouais, sans doute. Mais Kernock, non, chez Captain Crochet, il y avait une certaine classe, vous savez.
Kernock, il est détestable de bout en bout, mais ça en devient drôle tellement il est horrible, ce personnage.
Alors, moi, je ne connaissais pas. Donc, je remercie effectivement monsieur, Riffreb, de nous avoir offert cette adaptation parue chez Noctambule. Alors, je suis surpris parce que je croyais qu'il ne bossait plus que pour Oxymore, mais non, apparemment, il continue à travailler. Noctambule, c'est comment s'appelle, Delcourt ou Glénat, ça?
Soleil.
C'est plus proche de Delcourt, du coup.
En fait, Noctambule, je rectifie juste, mais c'est une collection de Oxymore.
Ah, voilà. Donc, on est bien chez Oxymore.
Oui, collection elle-même Noctambule. Une collection de Soleil, si je ne dis pas de bêtises.
Oui, parce qu'à l'origine, c'était une collection de Soleil, Noctambule, ça.
Ouais, mais j'ai peur de me tromper.
Non, mais vous avez raison, c'est pour ça, d'où le problème. Et c'est peut-être Oxymore qui a racheté ça, en fait, tout simplement, en gardant la collection. Ça vous facilite pas le travail, mon pauvre ami. Puis en plus,
ça, c'est les poupées russes.
Et ça, c'est un ouvrage mâchouillé. Vous avez vu comment il est tout mâchouillé.
Ouais, qu'est-ce que vous faites dans votre boutique? Pourquoi vous vendez des livres mâchouillés? C'est quoi le problème? C'est quoi votre problème? Vous êtes une...
Vous êtes des dingues.
On aime le goût du papier.
Vous êtes des dingues.
Poisson-chat?
Ouais.
Allez, poisson-chat.
We are the Devil Makes Three.
We are.
I don't know what to say. I never know what to say.
This is a Ralph Stanley song.
Oh, yeah, okay. Hello, we're the Devil Makes Three. This is a Ralph Stanley song. We're going to play for you because he recently passed away. It's called I Am the Man. How's it go again?
Yeah.
Right. One, two, three. I am the man, Thomas, I am the man. Look at these nail scars I carry in my hand. I am the man, Thomas, I am the man. Look at these nail scars I carry in my hand. They drove me up the hill, Thomas, I am the man. They made me carry the cross, Thomas, I am the man. I am the man, Thomas, I am the man. Look at these nail scars I carry in my hand. They crowned my head with thorns, Thomas, I am the man. They nailed me to the cross, Thomas, I am the man. I am the man, Thomas, I am the man. Look at these nail scars I carry in my hand. They pierced me in the side, Thomas, I am the man. And on the cross I died, Thomas, I am the man. I am the man, Thomas, I am the man. Look at these nail scars I carry in my hands. Tomb, Thomas, I am the man. In 3 days I rose, Thomas, I am the man. I am the man, Thomas, I am the man. Look at these nail scars I carry in my hands. I am the man, Thomas, I am the man. Look
Ouais, ça sent le Bayou quand même. Hein.
Ah bah ouais, je vous ai dit, c'est excellent. Excellent, je vous en mettrai un autre morceau la semaine prochaine pour vous apprendre.
Bah tiens. Je pense que les gens ont sans doute remarqué, s'ils vont fréquemment dans les magasins où on voit des BD, la couverture de l'album de Monsieur Ismaël Legrand, là. Le Deathbringer. Ça, c'est de la couve qui pète. Cette espèce de chevalier entouré de zombies avec une auréole toute cuivrée.
Encore des dorures sur la couverture.
Ouais, je dois être sensible à ça.
Il y a quelque chose.
J'aime l'or.
Ouais, un amour de la dorure.
Joli dos toilé, avec pareil, des jolies dorures. Bon, bah c'est de la dark fantasy, hein. C'est vraiment de la pure dark fantasy. Tu as aimé Berserker ? Tu vas y trouver ton compte.
C'est le porteur de bord, c'est ça.
Ouais, c'est ça. Ouais. On va être dans du médiéval fantastique très noir. C'est la première BD de Ismaël Legrand. Il vient du jeu de rôle et de l'animation. J'ai pu le rencontrer et discuter un petit peu avec lui dans une autre librairie que celle dont on taira le nom, mais on taira aussi le nom de celle-là. Tiens, ouais, par égalité. Allez, tiens.
Ça leur apprendra.
Non, ils sont sympas en plus. Une BD en noir et blanc, très tranchée, parce qu'on est plongé vraiment dans un monde qui est avec des sorcières où le bien et le mal s'affrontent. On est dans un certain obscurantisme. On va suivre une espèce de guerrier solitaire, mythique, qui est capable de guérir, en fait, de ses blessures. Et en parallèle, l'histoire d'une inquisitrice en quête de ses origines. Elle est d'origine païenne, sorcière. Tu comprends qu'ils sont pourchassés par une espèce d'église qui ressemble beaucoup à l'église catholique, hein, mais on va dire allusion, mais pas nette référence. Et en fait, le destin de ces deux personnages semble lié, quoi. Et tu vas découvrir donc ce qui les unit, tout ça dans un univers avec des monstres, des méchants horribles, des démons, des sorciers, des messes noires, des trahisons, des inquisiteurs qui se disent défenseurs du bien mais qui ne le sont pas. C'est vraiment bien fait, il y a de la baston, un peu de sexe. C'est vraiment de la dark fantasy comme on
classique.
Fait, voilà, c'est ce qu'on attend, ouais. Quoi, en fait, quand t'aimes le genre. De temps en temps, t'aimes bien mettre ton cerveau de côté aussi et te faire un bon vieux blockbuster, voire une série B, voire une série Z. Il y a pas de honte. Surtout que c'est bien fait. C'est vraiment bien fait. Le truc un peu chiant, c'est tout. C'est comme dans Game of Thrones, faut comprendre qui est qui. Les noms sont compliqués, les royaumes, les légendes, les figures,
ils mettent
les dieux.
Des trucs à lire en plus.
Ah ouais, il y a plein de références. Et au début, c'est un peu ardu. Il faut intégrer en fait ce référentiel, mais autrement le dessin est hyper efficace, le monde est finalement assez complexe, l'histoire n'est pas plan non plus. Moi j'ai bien aimé, j'ai vraiment bien aimé. Ça s'appelle donc Deathbringer, Ismaël Legrand, aux éditions Delcourt, un fort joli album et un fort beau premier album noir et blanc très puissant. Voili, voilo. Eh ben, il vous reste 5-6 minutes si vous voulez chroniquer, voire même 8.
Ouais.
Allez,
tiens, je t'en donne.
Allez, vas-y.
C'est reparti.
Ouais,
cette fois-ci, c'est de la nouveauté.
On coupera chez Roger. Il finit par la nouveauté.
Ben
c'est
oui.
Quoi
ça s'appelle le Tombeau de la Comète. C'est édité chez Dargo, mais en fait dans la collection Combo, qui est une collection qu'on présente jamais assez, assez récente, qui a maintenant 2 ans, et qui va nous présenter toujours des récits fantastiques engagés. Mais ce qui est très malin chez Combo, c'est que l'engagement n'est jamais au centre de l'histoire. Il est juste présent et il sert parfois l'histoire, mais il est juste là. Et ça, c'est très fort. Donc ça en fait des récits, des récits hyper agréables à lire. Là, c'est donc le Tombeau de la Comète de Élodie Portela Vidal et de Quentin Rigaud, qui sont tous les deux scénaristes et dessinateurs, parce qu'ils dessinent à quatre mains cette BD. Une comète est tombée sur Terre, et cette comète a bien changé les choses, parce qu'elle va faire apparaître des démons, ces démons qui sont des représentations de nos animaux actuels, mais qui sont devenus gigantesques, énormes, et qui hantent le monde. Les humains tentent de survivre comme ils peuvent, et certains humains ont développé des capacités, 3 capacités distinctes les unes des autres, qui vont leur permettre de forger d'immenses armures, des armures géantes. Pour faire fonctionner une armure, il faut réunir ces trois capacités. Une personne qui peut du coup manier l'armure, une qui peut créer des armes, et l'autre qui représente le sang de l'armure, donc l'âme de l'armure. Les humains ne peuvent pas tous du coup manier ces capacités, donc les personnes sont très rares, et on va suivre un groupe de survivants qui va tenter de fuir vers un lieu où potentiellement l'humanité pourrait survivre. C'est très malin, c'est assez fort, il reste presque plus d'hommes sur Terre, il reste principalement des femmes survivantes, et ces femmes vont tenter de donc faire survivre l'humanité et de comprendre l'origine de la comète et comment la comète influence la nature.
C'est marrant comment ça a un côté très méca japonais en fait, dans les gros armures robots, on dirait.
D'immenses armures, effectivement, l'armure qui est sur la couverture est très différente de ce qu'on peut voir d'habitude, mais c'est qu'elle a été créée par une femme qui a une vision différente de comment créer ces armures, parce que sinon les autres armures ressemble plus à des armures de chevalier, plus classiques. Je dirais que moi, l'influence que j'y ai vue, la première influence, c'est le film d'animation Final Fantasy, un vieux film d'animation des années 2000. Si je ne dis pas de bêtises, on sent qu'ils sont allés fouiller là-dedans pour créer cet univers. En tout cas, moi, je l'ai ressenti comme ça. C'est un mélange de fantastique et de science-fiction, plutôt très bien fait, une ode à la nature assez incroyable aussi. Et graphiquement, c'est assez soufflant. Donc, quand il dessine à quatre mains, il y a une personne qui fait Quentin Rigaud qui va faire le crayonnage, et Elodie Portel Vidal va venir dessus mettre une peinture numérique qui rend toute cette œuvre très belle à regarder. Et plus on va s'approcher de l'endroit où cette comète est tombée, plus ils vont aller chercher dans le côté graphique un peu jeté,
fantasmagorique.
C'est soufflant, ça va vraiment dans la profondeur du récit, dans la profondeur de la psyché de trois personnages qui manient une armure et d'un jeune homme qui les accompagne. Voilà, très beau récit.
Ouais,
encore une fois, de l'ado adulte, je dirais.
Très intriguant, très très intriguant.
Eh ben, un petit disque et puis on va boucler.
Un petit disque et puis on va boucler, ok.
C'est annoncé.
Voilà. Est-ce que j'ai vraiment le choix? Donc non.
Non.
Bon, bah alors ça sera de ma prog, ça vous apprendra. Hein. Moi je dis ça, je dis rien. T'es prêt? Quiz.
Christine,
Donc la question c'était qui est cette voix féminine quand même extrême
d'or. Voilà, Siouxsie and the Banshees. Voilà,
Christine de Strawberry Girls. Voilà. Voilà qui vient alors conclure cette émission. La semaine prochaine, on a une émission qui se promet.
On doit avoir, soyons optimistes. Soyons optimistes, donc Mandragore, ça normalement c'est plus ou moins acquis, si on arrive à enregistrer le matin par contre, il faudra qu'on enregistre un peu plus.
What
Le matin
Pas avant 14h du mat quand même.
Peut-être les gens des éditions Presque Lune, mais c'est à confirmer aussi, pour parler du No Angoulême qui se tiendra donc au Grabuge, à la Courrouze, c'est ça?
C'est ça, dit le Grabuge à la Courrouze, effectivement.
De 15h à 21h, c'est ça.
Le 31 janvier, voilà. Moi, je dirais. Même, voilà. Ça doit être un samedi.
C'est ça.
Un samedi.
Tout à fait.
Donc, apparemment, il va se passer plein de trucs. De toute façon, on va en savoir plus la semaine prochaine. Normalement, donc, c'est ça la thématique. Ce qui restera cohérent avec les rubriques que vous nous faites depuis un bon moment. Sur ce, messieurs, à la semaine prochaine. Pas vous, monsieur Carpetto.
Oui. À bientôt.
Prochaine fois, on sait déjà qui va venir de l'équipe. Les Castors Juniors, là.
Je crois que ça devrait être madame Matadora.
Oh zut.
Allez, va pour Matadora.
Oh là là, il va falloir des BD sérieuses. Oh là là.
On va se cogner de la BD Télérama, c'est sûr. Ça va pas être, on va pas rire.
Vous lui direz pas.
Hein. Non, promis.
À la semaine prochaine, bonne lecture, tant qu'on a le droit.